Camille Parsi, bonjour.
Bonjour Isabelle, bonjour à tous.
Et à la une aujourd'hui, l'affaire Liana, du drame au scandale d'État.
L'émotion est immense, mais la séquence est désormais politique. Après la découverte du corps de la fillette de 11 ans et les révélations sur le parcours judiciaire du principal suspect, l'exécutif a passé tout le week-end à tenter de reprendre la main. Le gouvernement est sous pression, pris en étau entre la gauche qui appelle à la démission du ministre de la Justice et la droite qui s'élève contre les magistrats, Claire Flauchel.
En première ligne, il y a Gérald Darmanin. Le garde des Sceaux convoque ce matin les procureurs généraux pour une réunion de travail. Le ministre leur demande de reprendre l'intégralité des plaintes qui touchent les enfants, soit environ 70 000 dossiers d'ici au 14 juillet, où ils seront réunis à nouveau. Il n'y a pas un seul haut magistrat qui partira en vacances tant que je n'aurai pas vu un par un les procureurs généraux pour qu'on fasse le bilan, déclare Gérald Darmanin. Quant à Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, il estime que cette affaire est un échec, un drame qui aurait pu être évité. Laurent Nunez affirme qu'il y a eu des dysfonctionnements, terme employé à maintes reprises par l'exécutif, qui cherche donc des responsabilités du côté des magistrats. Mais l'exercice est périlleux, le gouvernement doit agir avec fermeté sans s'aliéner les procureurs. Et cette affaire ouvre une semaine à haut risque, à la pression des oppositions, comme la chef des députés insoumis Mathilde Panot, qui réclame la démission de Gérald Darmanin, s'ajoute la pression citoyenne. Plusieurs associations appellent à se rassembler ce soir devant le ministère de la Justice à Paris et devant les tribunaux en région.
Rassemblement notamment prévu ce soir à 19h devant les tribunaux de Bastia et d'Ajaccio. Ajaccio qui organisait hier une journée sensibilisation à la conduite sur deux roues en présence des services de l'État, de la gendarmerie et de la police. Objectif sensibilisé par des formations à la conduite et la Corse fait partie des régions les plus accidentogènes. En Corse du Sud, 43% des blessés graves lors d'accidents sont des conducteurs de deux roues. Ils représentent pourtant seulement 2% du trafic motorisé. En cause plusieurs facteurs, selon Mariana Jovanovic, elle est coordinatrice sécurité routière au cabinet du préfet de la Corse du Sud.
Le premier facteur, c'est en tout cas pour les motards, c'est la vitesse. À chaque fois, ce sont les vitesses qui sont en cause et les motards roulent trop vite. On a souvent des accidents aussi dans les virages parce que les virages sont pris à vive allure alors qu'en fait, il faut ralentir avant de prendre un virage. Les dépassements dangereux aussi. En fait, pourquoi on les qualifie de dangereux? Parce qu'en fait, un dépassement, il faut s'assurer de la visibilité et de ne pas avoir un véhicule. Et malheureusement, beaucoup d'accidents ont lieu parce qu'il y a une collision lors d'un dépassement. Donc, c'est la vitesse, le principal facteur. Donc, c'est pour ça que là-dessus, on appelle vraiment à rouler prudemment sur les routes. Et ensuite, le second facteur, c'est l'alcool. L'alcool a vraiment des effets néfastes. Ça trompe le cerveau, ça fait croire au cerveau que là-dessus, tout va bien. Ça, au contraire, ça le stimule, alors que pas du tout. L'alcool, en fait, a un effet incident qui est de ralentir le fonctionnement du cerveau. Donc, si on ralentit le fonctionnement du cerveau, ce sont les réflexes à acquérir, justement, pour faire face à une situation qui sont ralentis. Et c'est comme ça que les accidents arrivent.
Ce 8 juin, Camille, on fête la journée mondiale de l'océan.
Un océan en première ligne, plus que jamais, du réchauffement climatique. Rien qu'en 2024, les températures de l'eau avaient battu des records, 1,5 degré de plus que la moyenne, selon l'Organisation météorologique mondiale. Alors, quelles conséquences en Méditerranée et chez nous, en Corse? Élément de réponse avec Michel Marango, il est le directeur scientifique de la Stariso de Calvi.
On voit de plus en plus de canicules marines, notamment d'espèces d'affinité d'eau chaude qui sont dans nos eaux. Cette augmentation de la température de l'eau va baisser la productivité des pêcheries. Donc on va pêcher moins d'espèces. Donc ça va avoir des conséquences directes sur les apports en protéines, sur le nombre de poissons qui sont dans nos assiettes. Ça va augmenter aussi le niveau marin, la dilatation thermique et la fonte des glaces. Il y a de plus en plus d'érosions qui sont possibles. Cette augmentation de la température des surfaces, ça va augmenter les événements extrêmes, notamment les tempêtes qu'on a pu voir notamment pendant l'été 2018. Donc voilà, on n'a qu'une seule planète et qu'un seul océan mondial, dont notre patrimoine naturel qui est la mer Méditerranée. Et nous, la Corse, avec nos 1000 kilomètres, on a la chance d'avoir une très grande biodiversité. Donc tout est connecté, les températures bien sûr vont augmenter, mais chacun peut agir à son niveau pour préserver l'océan et protéger notre cycle de vie et notre quotidien.
Michel Marango qui sera notre invité dans quelques instants à 7h45, il répondra aux questions de Paul-Anton Squarcini. L'océan à présent, là où on l'attend un peu moins, c'est au cœur de l'innovation viticole, des barriques de vin immergées sous l'eau. En Méditerranée, un appel à manifestation d'intérêt vient d'être lancé en Corse, en Toscane, en Ligurie, en Sardaigne et dans le Var. Trois entreprises par région seront sélectionnées cet été et supervisées par l'Université de Pise. Le projet Tiramisu, c'est son nom. Il reprend une idée déjà explorée ces dernières années en Corse, Olivier Castel.
400 bouteilles à 40 mètres de profondeur. En 2021, cette tentative était menée par le domaine Oranga de Gafouri. Des vins qui ont passé 6 mois sous l'eau, une pression, une lumière et une température différentes des caves. Intéressant selon Quentin Depacheter, assistant de vinification au domaine.
Ça permettait d'avoir vraiment une belle fraîcheur que nous on recherche ici sur nos blancs et de plus en plus sur nos rouges aussi, comme on a une activité très estivale sur Patrimoine et sur la Corse en général. Cette sensation de tension en bouche qui va pouvoir permettre ces consommations avec les fruits de mer, à l'apéritif.
Seulement la bouteille se vendait très, très cher, entre 80 et 90 euros l'unité. Ce genre de vin n'existe donc plus. Mais à Corot, le maître sommelier Raphaël Pierre Bianchetti s'interroge encore sur ce mode d'élevage du vin en bouteille.
C'est de toute façon une solution et une expérience intéressante. Après, il faut que ça soit respectueux de l'écologie et que ce ne soit pas que du marketing. Il faut, je crois, par des expériences, prouver son intérêt.
Pour cette étude sur le vin sous-marin, le programme transfrontalier Interreg précise les conditions pour rentrer dans l'étude de l'Université de Pise. Rémi Bellia, chargé de mission de Petra Patrimonia Corse.
De bouchons, d'études de bouchons de diamètre 5 ou 10, de bouteilles en verre plutôt clair, pas opaque, et après respecter les cépages qui sont en Corse.
Trois viticulteurs corses se sont dit intéressés à ce stade. Les professionnels peuvent candidater tout le mois de juin.
Les amateurs de vin qui auront aussi pu profiter hier, pourquoi pas, de la nuit du millésime à Bastia, retour après 2 ans d'absence, quand un peu plus tôt dans la journée, la procession du Corpus Christi, elle, s'était lancée dans les rues de la ville. Procession remise en marche il y a 3 ans. Une dizaine de confréries bastiaises se sont mobilisées. Explique Anthony de la confrérie, de l'archi-confrérie de Saint-Joseph.
Il y a une organisation qui est importante, qui se déroule sur plusieurs semaines. D'une part, il faut réussir à mettre en symbiose tous les acteurs, toutes les parties prenantes de la fête. Et puis il y a une partie qui est plus interne avec la confrérie, avec un travail sur les champs, et également un travail, comme nous avons pu faire ce dimanche matin, de mise en place, nettoyage, mise en place de hôtels sur le parvis de Saint-Joseph, éventuellement quelques retouches de meubles par-ci par-là. Donc c'est un travail qui est assez long pour que la chapelle soit très belle.
Des propos recueillis par Mathieu Bourigny.